Chapitre 13. Sombre rêve. Robert Audley quitta Southampton par le train-poste et entra dans son appartement juste comme l'aube se glissait froide et grise dans les chambres solitaires et que les canaris commençaient à secouer faiblement leurs plumes avec le jour naissant. Il y avait plusieurs lettres dans la boîte derrière la porte, mais il n'y en avait aucune de George Talboys. Le jeune avocat était harassé par une longue journée passée à courir d'un endroit à un autre. La paresseuse monotonie habituelle de sa vie avait été rompue comme elle ne l'avait jamais été pendant 21 années tranquilles et qui s'était passée sans embarras. Son esprit commençait à devenir confus par rapport au temps. Il lui semblait que des mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait perdu de vue George Talboys. Il était si difficile de croire qu'il y avait moins de 24 heures que le jeune homme l'avait laissé endormi sous les saules, sur le bord du ruisseau aux truites. Ses yeux étaient horriblement fatigués, faute de sommeil. Il chercha dans les chambres pendant quelque temps, furetant dans toutes sortes d'endroits impossibles pour trouver une lettre de George Talboys. Et puis il se jeta sur le lit de son ami, dans la chambre aux canaris et aux géraniums. « J'attendrai la poste de demain matin, dit-il, et si elle ne m'apporte pas de lettre de George, je partirai pour Liverpool, sans un moment de retard. » Il était complètement épuisé et tomba dans un lourd sommeil, un sommeil profond sans être réparateur, car il fut tourmenté tout le temps de rêves désagréables. Des rêves qui étaient pénibles, non parce qu'ils avaient quelque chose d'horrible en eux-mêmes, mais à cause du sens vague et accablant de leur confusion et de leur absurdité. Dans un moment, il poursuivait des gens étranges et pénétrait dans d'étranges maisons, faisant des efforts pour démêler le mystère de la dépêche télégraphique. Dans un autre, il se trouvait dans le cimetière de Ventnor, examinant la pierre tumulaire que George avait commandée pour le tombeau de sa femme. Une fois, dans les longues divagations de ses rêves mystérieux, il approcha de la tombe et trouva cette pierre tumulaire absente. Il en faisait des remontrances au maçon et l'homme lui disait qu'il avait eu un motif pour enlever l'inscription, un motif que Robert connaîtrait quelque jour. Il se réveilla en sursaut de ses rêves et découvrit que quelqu'un frappait à la porte la plus extérieure de l'appartement. C'était une matinée triste et humide. La pluie battait contre les fenêtres et les canaris gazouillaient tristement entre eux, se plaignant peut-être du mauvais temps. Robert n'aurait pu dire pendant combien de temps la personne avait frappé. Il avait entendu le bruit en rêvant et lorsqu'il s'éveilla, il avait seulement à moitié conscience des choses extérieures. « C'est cette stupide mistresse Maloney, je le parierai, » murmura-t-il. Elle peut frapper de nouveau, car je m'en soucie fort peu. Pourquoi ne se sert-elle pas de sa double clé, au lieu d'arracher un homme de son lit lorsqu'il est à demi-mort de fatigue ? La personne, quelle qu'elle fût, frappa de nouveau, puis cessa, apparemment dégoûtée. Mais environ une minute après, une clé tourna dans la serrure. « Elle avait donc sa clé sur elle tout le temps, » dit Robert. « Je suis vraiment enchanté de ne pas m'être levé. » La porte entre le salon et la chambre à coucher était à demi ouverte, et il pouvait y voir remuer la femme de ménage, époussetant les meubles et remettant en ordre des objets qui n'avaient pas été dérangés. « Est-ce vous, Mistress Maloney ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur. » « Alors pourquoi, bonté de Dieu, faisiez-vous ce tapage à la porte alors que vous aviez votre clé sur vous ?» « Du tapage à la porte, monsieur ?»« Oui, un infernal tapage !»« Pour sûr, je n'ai jamais frappé, monsieur Audley. Je suis entré directement avec la clé. »« Qui a frappé, alors ? Il y a eu quelqu'un qui a fait du bruit à cette porte pendant un quart d'heure au moins. Vous devez l'avoir rencontré descendant l'escalier. »« Mais je suis presque en retard ce matin, monsieur, car j'ai été d'abord dans la chambre de M. Martin et je suis revenu directement de l'étage au-dessus. »
Alors, vous n'avez pas vu quelqu'un à la porte ou dans l'escalier ?
Pas âme qui vive, monsieur.
Fut-il jamais quelque chose d'aussi contrariant, dit Robert. Penser que j'aurais laissé cette personne s'en aller sans m'inquiéter de savoir qui elle était ou ce qu'elle voulait. Comment faire pour savoir si ce n'était pas quelqu'un porteur d'un message ou d'une lettre de George Talboys ?
Si cela est, monsieur, assurément on reviendra, dit Mistress Maloney, cherchant à le consoler.
Oui, sans doute, si c'est quelque chose d'important, on reviendra, murmura Robert.
Le fait est que, du moment où il avait trouvé la dépêche télégraphique à Southampton, tout espoir d'entendre parler de George avait disparu de son esprit. Il sentait qu'il y avait quelque mystère qui enveloppait la disparition de son ami, quelque trahison envers lui-même ou envers George. Pourquoi le vieux beau-père rapace du jeune homme n'aurait-il pas essayé de les séparer en raison du dépôt d'argent placé entre les mains de Robert Audley ? Ou pourquoi, puisque même en ces temps de civilisation, toutes sortes d'horreurs qu'on ne soupçonnait pas sont constamment commises, pourquoi le vieillard n'aurait-il pas fait tomber George dans un piège à Southampton ? Et n'en aurait-il pas fini avec lui afin d'entrer en possession de ses 20 000 livres laissées en dépôt à Robert pour l'usage du petit Georget ? Mais aucune de ces suppositions n'expliquait la dépêche télégraphique. Et c'était la dépêche télégraphique qui avait rempli l'esprit de Robert d'un vague sentiment d'alarme. Le facteur n'apporta pas de lettre de George Talboys. Et la personne qui avait frappé à la porte de la chambre n'était pas revenue entre 7 et 9 heures. Aussi, Robert Audley quitta-t-il Fig Tree Court, encore une fois, à la recherche de son ami. Pour lors, il dit à un cocher de cab de le conduire à la station d'Euston, et au bout de 20 minutes, il était sur la plateforme du chemin de fer, prenant des informations sur les trains. L'express pour Liverpool était parti une demi-heure avant qu'il atteignît la station, et il avait à attendre 1 h 15 qu'un train ordinaire l'emportât à sa destination. Robert Audley s'irrita cruellement contre ce retard. Une demi-douzaine de bâtiments pouvaient mettre en mer pour l'Australie pendant qu'il errait çà et là sur la longue plateforme, heurtant les camions et les facteurs et pestant contre sa mauvaise chance. Il acheta le Times et regarda instinctivement à la seconde colonne, avec un intérêt maladif, les annonces sur les gens disparus, fils, frères et maris, qui avaient abandonné leur demeure pour n'y retourner jamais ou dont on ne devait plus jamais entendre parler. Il y avait l'annonce d'un jeune homme qui avait été trouvé noyé quelque part sur le rivage de Lambeth. Pourquoi George n'aurait-il pas eu le même sort ? Non, la dépêche télégraphique impliquait son beau-père dans le fait de sa disparition. Et toute conjecture sur lui devait partir de ce point unique. Il était 8 heures du soir lorsque Robert arriva à Liverpool, trop tard pour faire autre chose que de s'enquérir des bâtiments qui avaient mis à la voile pour les antipodes durant les 2 derniers jours. Un vaisseau des migrants était parti à 4 heures cet après-midi, le Victoria Regia, chargé pour Melbourne. Le résultat de son enquête se réduisit à ceci. S'il avait besoin de savoir qui s'était embarqué sur le Victoria Regia, il devait attendre jusqu'au lendemain matin et prendre des informations sur ce vaisseau. Robert Audley était au bureau le lendemain matin à 9 heures et fut la première personne qui y entra après les employés. Il rencontra toute espèce de politesse dans l'employé à qui il s'adressa. Le jeune homme consulta ses livres et, suivant de haut en bas avec sa plume la liste des passagers qui étaient montés sur le Victoria Regia, il dit à Robert qu'il n'y en avait pas un seul parmi eux du nom de George Talboys. Il poussa plus loin ses demandes d'information. Se trouvait-il un passager qui eût fait inscrire ses noms quelques instants avant le départ du bâtiment ?
L'un des autres employés leva la tête de dessus son pupitre à la question faite par Robert. « Oui, » dit-il. Il se rappelait un jeune homme qui était entré dans le bureau à 3h30 de l'après-midi et qui avait payé sa traversée. Son nom était le dernier sur la liste, Thomas Brown. Robert Audley haussa les épaules. Il ne pouvait pas y avoir de raison plausible pour que George prît un nom supposé. Il demanda à l'employé qui avait parlé le dernier s'il pouvait se souvenir de la tournure de ce monsieur Thomas Brown. Non, le bureau était encombré en ce moment. Le monde entrait et sortait, et je n'ai fait aucune attention particulière à ce dernier passager. Robert les remercia pour leur obligeance et leur souhaita le bonjour. Comme il allait quitter le bureau, un des jeunes gens le rappela. « Ah, à propos, monsieur, dit-il, je me rappelle une circonstance sur ce monsieur Thomas Brown. Son bras était en écharpe. » Robert Audley n'avait plus rien à faire que de retourner à Londres. Il rentra chez lui à 6h le même soir, complètement harassé une fois encore par ses recherches inutiles. Mistress Maloney lui apporta son dîner et une pinte de vin d'une taverne du Strand. La soirée était froide et humide, et la femme de ménage avait allumé un bon feu dans le foyer du salon. Après avoir mangé à peu près la moitié d'une côtelette de mouton, Robert resta assis, son vin intact sur la table devant lui, fumant des cigares et les yeux fixés sur le feu. George Talboys n'est pas parti pour l'Australie, dit-il après une longue et pénible réflexion. S'il est vivant, il est encore en Angleterre, et s'il est mort, son corps est caché dans quelque coin de l'Angleterre. Il resta pendant des heures à fumer et à penser. De confuses et lugubres pensées laissaient sur son visage chagrin une ombre noire que ne purent dissiper ni la brillante lumière de la lampe à gaz, ni la flamme rouge du feu. Très tard dans la soirée, il se leva de sa chaise, recula la table, avança son bureau près du foyer, sortit une feuille de papier collé et trempa une plume dans l'encre. Mais après avoir fait tout ceci, il s'arrêta, posa son front sur ses mains et se replongea dans ses réflexions. « Je rédigerai un rapport de tout ce qui est arrivé depuis notre descente dans l'Essex et ce soir, en commençant par le vrai commencement. » Il rédigea ce rapport en courtes phrases détachées qu'il numérotait en les écrivant. Il était ainsi conçu. Journal des faits se rattachant à la disparition de George Talboys, y compris les faits qui ont aussi des relations apparentes avec cette circonstance. Malgré l'état chagrin de son esprit, il était presque disposé à s'enorgueillir de la tournure officielle de ce titre. Il resta quelque temps à le considérer avec tendresse, l'extrémité de sa plume dans sa bouche. « Sur ma parole, dit-il, je commence à croire que j'aurais dû poursuivre ma profession au lieu de gaspiller ma vie comme je l'ai fait. » Il fuma la moitié d'un cigare avant d'avoir mis ses idées en ordre convenable, et alors il commença d'écrire. « 1. J'écris à Alicia. » Et je lui propose d'amener avec moi George au château. 2. Alicia écrit l'opposition faite à cette visite par Lady Audley. 3. Nous allons dans l'Essex, en dépit de cette opposition. Je vois Milady. Milady refuse d'être présentée à George dans cette même soirée, sous prétexte de fatigue. 4. Sir Michael invite George et moi à dîner pour le lendemain. 5. Milady reçoit une dépêche télégraphique le lendemain matin qui l'appelle à Londres. 6. Alicia me montre une lettre de Milady dans laquelle elle l'a prie de lui faire savoir quand moi et mon ami M. Talboys avons l'intention de quitter l'Essex. À cette lettre est jointe un post-scriptum réitérant la prière ci-dessus. 7. Nous allons au château et demandons à voir l'habitation. Les appartements de Milady sont fermés à clé. 8. Nous pénétrons dans les susdits appartements par un passage secret dont l'existence est ignorée de Milady. Dans l'une des pièces, nous trouvons son portrait. 9. Georges est effrayé de l'orage. Sa conduite est excessivement étrange pendant le reste de la soirée. 10. Georges est complètement revenu à lui le matin suivant. Je propose de quitter Rodley immédiatement. Il préfère rester jusqu'au soir. 11. Nous allons à la pêche. Georges me laisse pour se rendre au château. 12. Le dernier renseignement positif que je puisse obtenir sur lui dans les sexes, c'est au château, où le domestique me déclare qu'il croit que M. Talboys lui a dit qu'il allait chercher Milady dans la campagne. 13. Je reçois sur lui à la station des renseignements qui peuvent être ou n'être pas exacts. 14. J'apprends de ses nouvelles positives encore une fois à Southampton, où, suivant son beau-père, il est resté pendant une heure la nuit précédente. 15. La dépêche télégraphique. Lorsque Robert eut complété ce court rapport, qu'il rédigea avec mûre délibération, en s'arrêtant fréquemment pour réfléchir, changer et raturer, il resta longtemps à contempler la page écrite. Enfin, il la parcourut avec attention, s'arrêtant à quelques-uns des nombreux paragraphes et en marquant plusieurs d'une croix au crayon. Puis il plia la feuille de papier écolier, passa dans le cabinet du côté opposé de la pièce, l'ouvrit et plaça le papier dans ce même casier dans lequel il avait jeté la lettre d'Alicia, le casier étiqueté « Important ». Ayant accompli tout cela, il retourna son fauteuil à côté du feu, recula son bureau et alluma un cigare. C'est aussi obscur que minuit du commencement à la fin, dit-il. Et le fil du mystère doit commencer à Southampton ou dans l'Essex. Qu'il en soit ce qu'il pourra, ma résolution est prise. J'irai d'abord à Audley et je chercherai Georges dans un petit rayon.